Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci Bernard. C'est Bernard qui s'y colle ce soir, malgré le froid.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à notre invité.
À Florence.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Déjà Florence, puisque tu es venue à l'émission pour nous présenter l'association dont tu es la présidente, la fondatrice et la présidente.
La fondatrice et la présidente, oulala, oui, tout ça. Oui. Ça fait à peu près un an, en fait.
Oui.
Et si ma mémoire est bonne, on a terminé par un mot sur ma ligne d'appel d'urgence.
Oui.
Et j'aimerais qu'on commence sur ce numéro de 0800 600 608, qui est une ligne d'appel unique en France. Et les personnes peuvent appeler sur cette ligne. Il y a des personnes transidentitaires qui répondent. Il n'y a pas de jugement, bien évidemment. Et l'appel est gratuit.
Donc on l'aura compris. On va quand même rappeler pour ceux qui n'auraient pas écouté notre première émission et qui n'auraient pas eu connaissance de l'existence du Jardin d'été. Le Jardin d'été, l'association dont nous parlons, qui est une association de support, d'aide des personnes transidentitaires.
Transidentitaire étant en fait un parapluie où on met un petit peu tout plein de gens dedans.
Voilà. Alors je sais que le mot transsexuel peut-être est plus trop acceptable maintenant.
Ça veut dire la même chose, en fait. Transsexuel, ça veut dire la même chose, mais simplement on évite de l'utiliser parce qu'il y a un rapport sexuel, il y a un moule sexuel. Or, la transidentité a déjà pas vraiment besoin de ça. On a une image qui n'est pas forcément très très bonne ou très belle. Tout le monde pense au bois de Boulogne, aux putes, à tout ça. Donc, je préfère qu'on oublie ce mot transsexuel et qu'on parle de transidentitaire ou de trans, tout simplement.
C'est plus simple encore.
C'est trans. Beaucoup plus simple. Trans avec le petit apostrophe juste avant le S. En plus de ça, c'est joli.
Ouais.
et puis voilà, c'est beaucoup mieux.
Oui, puis c'est enfin nom et puis adjectif.
Ouais. Voilà. Oui, alors là, je ne suis pas du tout bon en français, donc ne me parle pas de nom, adjectif, de prénom. Je comprends rien.
Alors quelqu'un vient d'arriver, que tu veux nous présenter parce que tu n'es pas venu seul.
Moi, je suis venu avec quelqu'un qui s'appelle Laurent, en fait. Voilà.
S'il veut parler, Laurent, il ne veut pas parler.
Il ne veut pas parler, il est timide.
D'accord. Un pote.
Oui. Oui, enfin, on verra plus tard ce que ça donne.
Tu nous tiendras au courant.
Oui, d'accord, voilà.
Bon, alors, moi, j'aime bien t'avoir, Florence, parce que c'est vrai qu'on parle souvent... Moi, je dis, quand je présente l'émission, même si le nom de l'émission, c'est Pluriel Gay, c'est une émission LGBT. C'est vrai que le T, parfois, pas toujours inclus dans les LGB, même B, même souvent. C'est LG, puis on s'arrête là. Et T, c'est important que les personnes trans, donc, soient représentées ici.
C'est un petit peu normal.
Surtout qu'il y a des luttes, en plus, encore.
Oui, ouais. Alors, c'est un petit peu normal. Je reviens juste un petit peu en marche arrière sur les LGB. Effectivement, ça, on parle d'une orientation sexuelle, en fait. Et la transidentité, le T, c'est une orientation. C'est une identité de genre. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire. C'est en fait, l'orientation, c'est la personne avec qui vous couchez ce soir. Et l'identité de genre, c'est la personne que vous êtes quand vous allez vous coucher. Donc, c'est deux choses complètement à part. Bien que tout le monde a malheureusement beaucoup de tendance à confondre un petit peu tout ça. Moi-même, quand j'ai annoncé ma transidentité à mon frère, il m'a dit, ça y est, tu dis homo. Mais non, je ne viens pas homo, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, pour revenir sur les luttes, oui, effectivement, on en a plein. L'association Le Jardin d'été a travaillé beaucoup cette année sur Paris, Genève, pour... alors, sur Genève, surtout sur les droits humains, et dénoncer la torture qui se passe en fait dans les prisons. Les conditions d'incarcération en France sont absolument déplorables. Moi, ça, c'est pas un scoop, hein, tout le monde le sait. Mais pour les personnes transidentitaires, c'est encore pire. C'est véritablement une catastrophe. Donc on a sensibilisé l'ONU donc à Genève. Et du coup, on a eu aussi un petit peu des portes qui se sont ouvertes au ministère de l'Intérieur, à la DAP, Direction administrative des lieux des prisons. On a aussi visité le contrôleur général des lieux de privation de liberté et avec le soutien de trois députés, je dois reconnaître qu'on a quand même pas mal avancé sur le sujet. Et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui puisqu'en fait le contrôleur général des lieux de privation vient de m'écrire en disant qu'ils avaient pris un cas que nous suivons vraiment sous leur coupe et qu'ils allaient vraiment s'en occuper très très bien. Donc là je suis très très contente. On a des dossiers de personnes transidentitaires qui sont en prison, que nous suivons, et on essaye de faire avancer tout ça.
Oui, parce que le problème, un des problèmes en tout cas de la transidentité lorsqu'elle est, elle est concernée par le milieu carcéral, c'est qu'il n'y a aucune considération vis-à-vis de la personne trans en elle-même. Une personne transgenre va se retrouver par exemple avec des détenus de son sexe civil.
D'origine.
Voilà, d'origine. Et alors que ouais. ça pose beaucoup de problèmes, ça.
Ah ben, imagine, si tu veux, tu as une petite minette, une petite jupe, chemisier, toute mignonne comme il faut, qui malheureusement a fait une bêtise. Elle va aller chez les garçons.
Ouais.
Et les garçons, ce n'est pas forcément des tendres. En plus de ça, elle va aller dans des secteurs ou des quartiers où les garçons sont privés de féminité, je veux dire, depuis quelque temps. Et c'est des garçons qui ont très faim, quoi.
Ouais.
C'est assez clair. On connaît à peu près le tarif. Une personne transidentitaire qui est incarcérée dans ces conditions-là, c'est à peu près 3 à 4 viols avant qu'elle se fasse tabasser et avant qu'elle soit éventuellement prise sous la coupe d'un caïd, on va dire, de quelqu'un en prison qui va la protéger. Alors, il y a deux formes de protection. Soit il va la protéger et effectivement, de façon très bien, faire en sorte qu'il ne lui arrive rien et que tout se passe bien pour elle, ou il va s'en servir comme monnaie de commerce. Voilà. Donc, nous, on essaye de surveiller ça. On a créé nos affiches. J'aurais dû t'en ramener une. On a créé une affiche où, justement, on fait la promotion du 0800 600 608. Ça me permet de leur dire un peu. Et c'est des affiches que nous cherchons à rentrer en prison. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui, dans l'ensemble de nos démarches, nous avons tapé tout en haut. C'est-à-dire qu'on a visité le ministère de l'Intérieur. Après, on a fait tout doucement on est descendu. Et aujourd'hui, on est aux commissions en fait régionales, direction régionale. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Beaucoup d'affiches passent en prison. Normalement, je dois passer sur une radio qui est diffusée en prison, uniquement en prison, oui. Et qui s'appelle Radio Réverbère, je crois, quelque chose comme ça.
Oui.
Voilà, donc là, je vais avoir une interview là-dessus aussi pour justement informer les personnes qui sont en prison qu'il y a une association qui s'occupe d'eux dans ce sens.
Dans l'absolu, dans l'idéal, qu'est-ce que ce serait ? C'est que les personnes trans soient assignées plutôt justement dans des secteurs qui correspondent à leur identité de genre ?
Alors, c'est très difficile parce qu'on se rend compte qu'aucune prison n'est adaptée à des particularités, à des différences comme ça. Donc, en fait, on est en train justement d'établir, puisqu'en fait, le ministère de l'Intérieur nous l'a demandé, d'établir nos revendications.
Ouais.
Dans l'ensemble de ces revendications, bien évidemment, on demande que les personnes transidentitaires ou en questionnement et ou en questionnement soient incarcérées relativement près des centres de la SOFECT. Alors, j'explique deux petites secondes ce que c'est la SOFECT. La SOFECT, c'est l'organisation qui est au sein de la Sécurité sociale et qui prend en charge la transidentité pour aider les gens au niveau de l'hormonothérapie, des opérations et de tout ça, et suivi médical. Donc ça, c'est une revendication où on veut que les personnes qui sont incarcérées soient le plus près de ces centres-là, de façon à ce qu'ils soient suivis régulièrement. Ça, c'est la première chose. Après, on demande à ce que les personnes en prison, qu'elles soient transidentitaires, c'est toujours pareil, je dis transidentitaires et ou en questionnement, hein, ça c'est très important, que ces personnes-là soient regroupées dans la prison, qu'elles ne soient pas éparpillées dans la prison, parce que ça permet d'avoir un phénomène de masse. Et on demande en fait que les personnes homosexuelles et transidentitaires soient en même temps, soient dans les mêmes, sur le même étage ou dans le même quartier de la prison. Et quand on ne peut pas, eh bien, on demande à ce que, alors, quand on ne peut pas bloquer tout le monde parce qu'il n'y a qu'une personne transidentitaire dans tel ou tel site, eh bien, qu'on la mette justement au contraire. Là, on fait complètement l'inverse. On la met carrément au milieu, mais on ne fait pas de discrimination et d'outing. C'est-à-dire personne dans les matons, dans les surveillants, doit montrer du doigt, pointer du doigt cette personne en disant « celle-là est transidentitaire » et voilà. Et qu'il y a effectivement une surveillance un petit peu plus particulière sur cette personne. Voilà, c'est la seule façon. Ça, on a un cas à Caen, justement, la prison de Caen est un petit peu comme ça. C'est-à-dire tout le monde est ensemble, tout le monde a le droit de travailler, tout le monde va travailler, tout le monde a ses activités dans la prison, tout le monde est ensemble. Et a priori, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Le plus gros problème qu'on a, en fait, à Caen, c'est par rapport au SPIP. Alors, SPIP, c'est le service de santé, qui est extrêmement frileux sur les personnes transidentitaires et qui préfèrent supprimer carrément le traitement hormonal que d'aller un petit peu plus loin dans la recherche. Alors qu'en fait, quelqu'un qui a un traitement hormonal, on ne peut pas lui supprimer comme ça du jour au lendemain. Voilà, donc on se bat aussi là-dessus.
Oui, alors c'est vraiment encore pire, quoi, parce que supprimer le traitement hormonal d'une personne qui est en transition,
c'est quelque chose de très dangereux.
Oui.
C'est très dangereux parce
sur
qu'en
le plan
fait,
physique et moral aussi.
Sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan psychologique, et parfois même sur le plan psychiatrique, parce qu'en fait, comme on touche la plateforme hormonale, avec le, on a un traitement qui va couper notre production d'hormones de testo, d'hormones mâles. Ça s'appelle l'androcure, et cet androcure est un produit qui est extrêmement nocif, extrêmement dangereux. Donc nous, on a un dosage qui est en 25 mg ou en 50 mg, mais il ne faut surtout pas le supprimer ou le surdoser, parce qu'en fait, il y a des dépressions qui rentrent en ligne de compte, et après, il y a des personnes qui un petit peu dans leur tête, se retrouvent complètement perdues. Elles ne savent plus si elles sont trans, elles ne savent plus ce qu'il faut faire, et c'est extrêmement dangereux.
C'est là qu'on voit que le monde médical, puisque là, bon, on est dans l'univers carcéral, l'administration carcérale, on peut comprendre, entre guillemets, que des associations comme le Jardin d'été aient besoin d'aller sur le terrain pour faire évoluer les choses. Mais le monde médical, qui devrait être beaucoup plus quand même perceptif, réceptif, au courant du problème... Enfin, j'enfonce une porte déjà ouverte parce qu'on sait très bien que ça ne se passe pas toujours très bien avec le milieu médical.
Malheureusement, non.
Il faut avoir la chance de tomber sur quelqu'un de bien, je dirais.
En milieu incarcéral, c'est au petit bonheur la chance. Ça, c'est clair. Je connais très très peu de personnes qui ont commencé une transition en prison.
Mais même en dehors, je veux dire, du monde carcéral.
En prison. Alors, en dehors, pardon.
En règle générale, le monde médical n'est pas très...
Eh bien...
informé, en fait, je dirais.
Je ne vais pas dire que ce soit une catastrophe, mais on n'en est pas loin.
Ouais.
On n'en est pas loin. Dernièrement, j'ai une fille, enfin, quand je dis fille, c'est une fille de destination, hein, quand elle se destine à être fille, qui m'a appelé absolument en catastrophe. On a besoin, nous, pour notre traitement, on a besoin de ce qu'on appelle l'ALD, hein, traitement à longue durée. Et sur l'ALD que son médecin avait fait, rempli tout à fait correctement, elle a été convoquée, ce qui est relativement rare qu'on convoque quelqu'un pour un ALD, l'autorisation d'un ALD. Et en fait, cette personne s'est trouvée devant le médecin conseil de la Sécurité sociale, et le médecin s'est comporté véritablement, ignoblement. Elle a traité cette personne en disant que de toute façon, elle n'était pas là pour alimenter les réseaux de prostitution. Cette fille dont je parle est noire, elle vient du Bénin. Elle parle très très bien le français, puisque ses parents l'ont toujours mise dans des écoles françaises. Elle est bac plus 4, et elle est loin de ressembler à une TDS. Et quand bien même. TDS, pardon, c'est travailleuse du sexe. Et quand bien même. Je veux dire, ce n'est pas un médecin conseil de dire si des choses comme ça. Et après, elle a conclu son entretien avec cette personne, le médecin en disant, de toute façon, vous êtes trans, c'est une maladie, il faut vous faire soigner. Voilà. Bon, alors, il est évident que nous, on a tout de suite effectivement réagi et voilà. Donc pour dire que le monde médical n'est pas encore tout à fait d'aplomb, il y en a beaucoup qui sont encore transphobes, qui ne connaissent pas la transidentité, il y en a beaucoup qui,
oui, il y a un
qui par ignorance,
hein,
par ignorance,
oui, voilà.
Hein, tout simplement. La faculté de Lyon a créé un diplôme universitaire sur le transsexualisme. Ce sont des scientifiques qui interviennent. Ce sont pas des... Il n'y a aucune personne trans qui intervient dans cette formation où, en fait, ils forment des médecins avec une spécialisation sur ce DU. Donc, moi, j'ai dit à la fac, j'ai dit, mais enfin, vous vous rendez compte, c'est comme si vous parliez de la vie d'un handicapé sans faire intervenir un handicapé. C'est pas cohérent. Voilà. Et les médecins, sur leur parcours de 7 ans, ils ont 2 heures... on va dire d'études de comportement sexuel, puisqu'en fait c'est un peu comme ça qu'ils l'expriment. Ils vont parler pendant ces 2 heures d'homosexualité, de bisexualité et un peu de transsexualité, si ils ont le temps. Donc on en est encore loin sur, ouais, par exemple, sur les intersexes, où c'est un sujet absolument tabou. Alors là, on parle absolument pas de ça. Voilà. Donc les médecins ont très 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 peu de formation, très très peu d'informations d'ailleurs là-dessus. Les psychiatres, c'est pas mieux, c'est une heure où là, on parle vraiment de la transidentité, mais sur une approche très, très freudienne. Donc, c'est-à-dire que, en fait, si on est trans, c'est parce que maman était castratrice, papa jamais à la maison, ou enfin, il y a des situations comme ça. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et je le vois sur ma ligne d'appel, quand j'ai des cabinets de psychiatres qui m'appellent en me disant « Écoutez, on aimerait vous rencontrer pour qu'on parle de ce sujet-là. » Et ça, j'y vais avec plaisir, ouais. Évidemment. Mais c'est évident. Ouais. Mais voilà.
Ouais. Alors, en deuxième partie d'émission, enfin, tout à l'heure, on va faire une petite pause musicale et puis on va avoir un invité téléphonique. Parce qu'il va y avoir un festival qui va commencer, qui s'appelle Only Porn. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Bah, ça sera l'occasion. Prendre connaissance de ce festival. on va envoyer une petite musique, mais justement, on reviendra après sur le parcours médical. Alors, on sait plus ou moins donc, qu'il y a une loi qui a été, une réforme en tout cas, qui a été introduite dans la loi concernant le changement d'état civil. Et justement, oui. On reviendra par rapport au parcours médical, parce qu'il semblerait que cette loi, justement, supprime le parcours médical.
Absolument.
D'accord. Eh bien, on reviendra après.
Il ne supprime pas, mais il ne l'exige plus.
Il ne l'exige plus. Voilà.
C'est différent.
Ce qui est quand même une avancée.
Absolument.
Alors, on en reparlera après. On va écouter maintenant The Pirouette, l'escalier. Et après, nous aurons Olivier Rey du Lavoir Public.
Le plus petit de mon entourage, j'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis, et j'entends la franchise, j'entends le converti, même le plus si sûr de lui, au fond, mais pas si sûr de lui, et j'ai compris qu'il n'avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble, mais je respecte que tu te poses toutes ces questions, et je de trouver tes propres raisons. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoria. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. Et ça fait 2-3 jours que tu n'es pas bien. Tu ressasses le même discours que t'es flippé parce qu'on est rien. Et tu sais plus choisir entre un cuir et un blouson. C'est normal, t'es qu'un pigeon face à l'enchaînement des saisons. Ouais, t'as compris, il n'y avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte qu'il se pose toutes ces questions et je leur souhaite. Pour toi, elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoria. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix.
de retour dans les studios, dans le studio. Moi, c'est toujours les studios, ça fait très
grand. Ça fait très grand. Oui. On a l'impression d'être à France Inter, voilà. Tellement il y a de studios.
C'est ça. Mais c'est pas le cas, il n'y en a qu'un seul. Et donc, avec donc, Laurence Varin, de l'association Jardin d'été. Et nous avons normalement Olivier, donc en ligne. Olivier Ray du Lavoir Public.
Absolument, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Olivier.
Vous me recevez, la communication est bonne.
Oui. Très bien, entre soi, 5 sur 5.
Bon, parfait.
Voilà, donc en fait, on te connaît bien l'émission, tu es déjà venu plusieurs fois pour parler notamment de la programmation du Lavoir Public.
Oui, la dernière fois c'était pour la Manif pour tous.
Oui, c'était, c'est vrai, c'était pour la Manif pour tous, on avait bien rigolé effectivement, on a même chanté. Voilà, on avait fait un karaoké. Là, en fait, il s'agit de parler d'un événement dans lequel le Lavoir Public est totalement impliqué.
Pas que, mais en partie.
En partie.
En disant qu'on est initiateur, quoi.
D'accord. Et, mais un festival qui a déjà eu lieu plusieurs années, depuis plusieurs
années. C'est la 100e édition.
Qui s'appelle Only Porn.
Voilà, c'est un clin d'œil à notre chère ville de Lyon.
Only Lyon, voilà. Alors, Only Porn, c'est un festival des cultures, enfin tu m'arrêtes si je dis une connerie, des cultures pornographiques.
Oui, alors Only Porn, c'est un titre résolument provocateur. En fait, c'est né d'un constat, enfin de différentes rencontres d'artistes dont la thématique de travail est le cœur, la sexualité. Et c'est des œuvres qui sont parfois à caractère pornographique. Ça concerne aussi bien des plasticiens que des réalisateurs, des vidéastes ou des performeurs. Et on s'est dit, pourquoi ne pas rassembler toutes ces propositions autour d'un festival dont la thématique du tout est le cœur et les sexualités, notamment les sexualités alternatives.
D'accord. Alors donc, il y a le côté culture, arti, qui rentre en ligne de compte.
Ce sont des œuvres d'art, absolument. Ouais. Alors, si vous voulez passer du porno YouTube, il ne faut pas venir. Ce n'est pas au OnlyPorn que ça se passe. C'est sur votre ordinateur. Par contre, ce sont des propositions artistiques qui sont présentées dans le cadre de ce festival. Ce sont des artistes qui présentent des œuvres. Il y a beaucoup de performances cette année, plus que d'habitude. Ouais. Donc, il y a moins de séances de projection. D'habitude, c'est essentiellement des séances des programmes de court-métrage, de long-métrage. Là, il y a un programme de court et un programme. Il y a quelques programmes de court et un programme de long, mais c'est essentiellement des performances.
Donc, du spectacle vivant.
Voilà, absolument.
D'accord. Alors, il faut dire aussi que le Only Porn, ça concerne toutes les sexualités.
Absolument. On est vigilant aussi sur le fait qu'il n'y a pas de programme thématique. Il n'y a pas un programme fétiche, un programme lesbien, un programme hétéro, un programme etc. Ce sont des programmes qui, généralement, essayent, dans la mesure du possible, de mélanger différentes sexualités. Mais toutes les sexualités y sont représentées. Enfin, pas toutes, mais en tout cas, on essaye de présenter tout le spectre, on va dire, des sexualités. Et les programmes sont volontairement un peu mélangés, même s'il y a quand même des thématiques qui s'en dégagent.
Alors, toutes les années, enfin, je sais que certaines années, il y a eu des invités de prestige, je dirais. Est-ce que cette année, vous avez aussi...
Absolument. Alors, tous les invités sont prestigieux, on va dire. On accueille notamment Fleuzif et Seul Stix, mais la soirée est complète. C'est un programme vendredi soir qui, lui, concerne plutôt la thématique post-porn féministe, avec une performance qui concerne le Shibari, mais la soirée est déjà malheureusement complète. Et il y a surtout Lucas Pira. Alors Lucas Pira, c'est le père, on va dire, du body activisme. C'est dans le milieu un peu body art, body acting, une star. Il nous présente son nouveau projet qui s'appelle Storytelling et qui, lui, c'est un peu un événement de l'avoir dans la région puisque c'est la première fois qu'il présente cette pièce-là dans la région. Donc Lucas Pira, c'est un peu l'invité d'honneur, on va dire, de ce festival. Et ce qui est assez amusant, c'est que pour le coup, avec Lucas Pira, on inaugure un nouveau format de soirée. Puisque ça se passera au Transborder samedi soir à partir de 23h30, qui mélange volontairement le clubbing, le DJ set, un live de Catherine, qui est une artiste, une musicienne formidable sur son nouveau projet, et les performances de Lucas Pira et de sa partenaire Tokyo Love Doll. Oui, donc il y aura plusieurs performances dans le temps de la soirée.
D'accord.
Donc, c'est une soirée un peu étrange puisque ça mélange à la fois des performances et du clubbing. On va vraiment faire la fête, on va vraiment danser. Et je pense que le porno ne vous aura jamais autant fait danser.
Donc en fait, pas seulement un lieu unique alors cette année parce que j'allais demander justement.
Non. Alors l'essentiel du programme se passe. Il y a trois soirées au Lavoir. La soirée d'ouverture demain soir. Avec la première en France de Fucking in Love de Justine Pluvinage qui sera là. Donc là, c'est un film qui est vraiment d'une générosité, d'une joie. Enfin, c'est vraiment le sexe joyeux comme on l'aime. Puisque l'idée, c'est aussi de dire que le sexe, c'est avant tout joyeux. Donc ça, c'est la soirée d'ouverture où il reste des places pour demain soir. Ensuite, vendredi soir, au lavoir, c'est complet. Ensuite, samedi soir, ça se passe au Transbo. Et dimanche soir, il y a la soirée de clôture avec Mathieu Hochmiller et Marianne Charlois, qui étaient déjà présents l'an passé et qui reviennent avec deux nouveaux projets, du coup.
D'accord. Alors, si on veut avoir le programme, tout ça, on peut aller sur un site.
On peut aller sur le site du lavoir, mais le mieux, c'est de taper Only Porn Lyon sur votre petite molette Google. Et vous avez tout de suite le Tumblr qui arrive, c'est onlypornlyon.tumblr. Mais si vous tapez Only Porn Lyon, vous avez tout le programme qui s'affiche.
D'accord.
Il y a aussi des événements plus rigolos, comme un vide-dressing fétiche samedi à l'heure de l'apéro, où on peut venir vendre ses chaussettes, ses culottes, enfin, tout ce qu'on veut, tout ce que votre grande tante vous a laissé. Ou, si vous n'osez pas venir déposer venir vendre quelques objets, vous pouvez les déposer à l'avance avec leur prix, on s'occupera de les mettre en vente. Donc si vous voulez être discret, c'est possible aussi. Et c'est vraiment, le mot fétiche, c'est vraiment à entendre au sens large, on va dire. C'est,
oui.
C'est
un petit, ça fait un peu peur, parce qu'il y en a qui sont fétiches des slips sales ou des choses comme ça. Donc,
voilà. Non, mais c'est plus... Enfin, on ne sait pas, il y aura peut-être de tout, mais disons que l'idée, c'est que chacun en trouve, comment dire, trouve chaussures à son pied, c'est comme ça qu'on dit, je crois.
C'est ça.
Pour les fétichistes des chaussures.
C'est ça. Alors, donc le festival Only Porn, ça commence demain, la cinquième édition.
Voilà, demain soir, la soirée d'ouverture, présentée par, alors non pas notre maîtresse de cérémonie, mais pour l'occasion, notre esclave de cérémonie, Fifi du Calvaire, qui sera donc l'esclave de cérémonie de cette soirée d'ouverture, avec la projection de Fetching in Love, et puis ensuite son siège continue vendredi, samedi et dimanche.
D'accord. Fifi du Calvaire, rappelle-moi, c'est un personnage drag queen.
Oui, c'est ça, qu'on peut voir notamment au Garçon Sauvage, mais pas que.
D'accord.
Et du coup, qui présentera cette petite cérémonie d'ouverture suivie d'un programme de court-métrage présenté par Julien Ribeiro, et ensuite la projection de Fetching in Love de Justine Plivinage. Et
d'accord.
Puis, voilà, je vous invite vraiment aussi à venir je vous invite en prenant votre place quand même. je vous conseille de venir au Transbo samedi soir, la soirée risque d'être assez rigolote. Et on aménage pour le coup le Transbo de manière un petit peu différente de d'habitude, il y aura des surprises.
D'accord. Alors justement, pour participer, pour assister à tous ces événements culturels,
oui.
Comment on peut faire?
C'est un festival en deux mots.
Ouais. Un
festival. Le mieux, c'est donc d'aller sur le site. Si on réserve sa place en envoyant un mail à réservation@delavoirpublic.com, c'est marqué sur le site. Et pour le Transbo, la billetterie est directement en ligne. Vous pouvez acheter votre place sur le site du Transbo directement.
Voilà. Si on n'a pas de billet, on peut
jouer.
Reste avec nous, Olivier.
J'ai pris un petit peu froid. Il faut vraiment réserver sa place parce que c'est pas encore complet, mais je pense qu'elle sera. Donc, pensez bien à réserver. C'est plus prudent, sinon vous risqueriez de rester dehors. Il fait un peu froid en ce moment pour rester dehors.
Voilà. Alors, justement, je t'ai posé la question concernant Fifi du Calvaire tout à l'heure parce que c'est donc un personnage drague connu. Mais justement, tu as dû entendre que nous avions donc Florence Varin ici du Jardin d'été. Et ça n'a rien à voir avec les drag queens. Mais justement, est-ce que la sexualité, l'art, on peut dire, transgenre, le mode de vie transgenre, est représenté au festival Only Porn? Ça, c'est une question horrible.
Alors,
que il va falloir défendre
le truc. Alors, pour être très... Alors, il y a, je sais qu'on a eu, par le passé, des programmes avec des invités transgenres, on va dire. Cette année, ce sont essentiellement pour le programme de court-métrage des Cartes Blanches. Mmh. Donc, je sais qu'il y aura des cours qui concernent la question trans, mais comme je l'ai dit auparavant, les programmes sont volontairement mélangés, on va dire. Donc, il n'y a pas de programme uniquement trans ou...
D'accord.
Enfin, comment dire. Mais dans les courts-métrages...
Voilà, il y aura quand même... une représentation, une ouverture sur
et parce que évidemment
sur l'univers,
disais, on voilà tout à fait, on essaye vraiment de présenter tout le spectre des sexualités sans aucune hiérarchie et sans aucun jugement de valeur. C'est un jugement de valeur artistique qu'on peut poser sur les films, mais jamais moral ou éthique, on va dire.
Eh bien Olivier, on a tout noté. Et je rappellerai tous sur les réseaux sociaux. Ça commence donc demain.
Ça commence demain soir et ça se termine dimanche soir.
Demain donc le 15 décembre.
Voilà. Il y a par exemple, j'en sais rien avec la question trans, mais je sais que le programme de Marianne Charlot dimanche soir concerne plutôt le sex working, donc les travailleurs du sexe.
Je d'accord.
Pas du tout d'amalgame entre les trans et le sex working.
C'est ça, pas oui, parce qu'attention, Florence, elle va venir te voir. Oui, non, mais bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, comme je le disais, l'univers trans, à mon avis, Florence, tu ne vas pas me contredire, ça peut être un univers qui peut toucher énormément de domaines, en fait. Pas seulement la sexualité, on l'avait dit que c'est d'abord une identité sexuelle. Mais on parle du travailleur du sexe, ça peut concerner aussi
Ça concerne les personnes trans, puisqu'en fait, je vais être mandaté par, en fait, je ne sais plus quelle section, dans le 42, pour faire un dossier justement sur les travailleurs de sexe. Principalement trans, quoi.
Oui.
Il y en a effectivement. Mais l'art, moi j'ai retenu une chose, l'art joyeux, non, le porno joyeux, pardon, oui, le porno joyeux, ça j'avoue que j'aime beaucoup cette notion.
c'est vraiment aussi, il y a quand même en filigrane aussi dans ce festival, un peu comme la manif pour tous, c'est-à-dire il y a une revendication de, en gros, lâchez-nous la grappe, le sexe peut être joyeux, chacun peut s'amuser, et le sexe est un territoire de jeu, un territoire de création. Et ça, on le revendique, et en gros, que les grenouilles de bénitier nous lâchent un peu la grappe, quoi.
Tout à fait. Le message est passé. Merci.
Merci,
Olivier.
Merci à vous.
Et à très bientôt. On ne manquera pas de prendre des nouvelles de la voix régulièrement.
Avec plaisir. Merci.
Bonne soirée et bon
festival.
Continuez
bien. Au revoir.
Merci.
Alors, donc, Florence. Peut-être que notre petit Bernardo à la régie, il nous envoyait un petit jingle, mais non, on reprend comme ça, direct. Allez. Donc, voilà. Donc, effectivement, alors, ce qui est intéressant, justement, sur ce point-là, point où nous en sommes, et ce que disait donc Olivier était intéressant dans la mesure où, effectivement, on a à un moment donné associé, et on le fait encore, travail du sexe, enfin transgenre, en tout cas, avec le travail du sexe. Bon, alors, ce qui est bien de savoir aussi maintenant, et je pense que tu es là aussi pour le défendre, il n'y a pas que cet aspect-là, surtout à l'heure actuelle. Et justement, on travaillait avant en collaboration avec RFI, la Radio Internationale, et Radio France Internationale, qui, bon, plus maintenant, mais j'ai gardé un petit son, une petite interview, en fait, qui a été faite il n'y a pas très longtemps, d'une personne qui s'appelle Audrey Tang, et qui est une personne transgenre, donc c'est à Taïwan, qui est devenue ministre du numérique. Voilà, pour dire que maintenant, les choses évoluent. Et je voulais juste qu'on écoute un petit peu, parce que c'est une personne qui, en plus, est très intéressante, pas seulement pour l'aspect transgenre, mais aussi pour les idées, les valeurs qu'elle défend. Audrey Tang.
Voix douce, cheveux longs et lunettes sur le nez, Audrey Tang fait face à une trentaine de Taïwanais, jeunes et moins jeunes, les yeux rivés sur leurs ordinateurs. Tous sont venus participer à un hackathon, un rendez-vous de programmeurs informatiques organisé par GovZero, un collectif de hackers taïwanais. Ses premiers programmes, Audrey Tang les a imaginés dès l'école primaire, d'abord sur des feuilles de papier sur lesquelles elle dessinait ses propres ordinateurs avant de pouvoir passer à la pratique.
Quand j'avais 8 ans, je me suis retrouvé avec un ordinateur pour la première fois. Et à ce moment-là, j'ai trouvé un jeu vidéo éducatif dans un magasin. Mes parents voulaient l'acheter pour mon petit frère, mais je n'étais pas d'accord avec la façon dont les mathématiques étaient enseignées dans ce programme. Je voulais effectuer des modifications, rendre ce jeu plus attractif. Les hackers créent de nouveaux outils dans de nouvelles situations. J'ai donc appris à programmer sur ordinateur, simplement pour reproduire quelque chose que j'avais vu, mais plus adapté.
À 12 ans, la jeune surdouée abandonne l'école pour se consacrer à la programmation. 3 ans plus tard, elle crée sa première start-up et multiplie ensuite les missions de consultante pour de nombreuses entreprises, dont des géantes de la Silicon Valley comme Apple. En parallèle, Audrey Tang se passionne pour l'Internet libre et participe au mouvement des tournesols en 2014. Le Parlement taïwanais est alors occupé par des centaines de manifestants pendant 3 semaines pour dénoncer un accord de libre-échange avec la Chine.
En tant qu'anarchiste conservatrice, ce qui m'importe, c'est de préserver nos valeurs. Je ne me bats pas vraiment contre quelque chose. Quand nous avons participé au mouvement des tournesols, ce n'était pas pour faire tomber le Parlement, mais pour montrer qu'il y avait de meilleurs moyens de débattre.
Au fond de la salle, sur une estrade, les hackers se succèdent pour présenter leurs projets de logiciels innovants. Pour la pause déjeuner, c'est pizza et thé glacé pour tout le monde. À première vue, hormis quelques journalistes présents, rien ne laisse deviner que ce jour est particulièrement important pour Audrey Tang. Pourtant, c'est ce même jour qu'elle est officiellement nommée ministre chargée du numérique. Mais pas de quoi inquiéter la jeune femme de 35 ans qui a déjà de nombreux projets en tête.
En tant que hacker, je me soucie beaucoup de l'innovation. Aujourd'hui, en tant que ministre, j'ai d'autres responsabilités. Je dois travailler sur un modèle de gouvernance plus ouvert qui rende les innovations possibles et surtout justes. Je compte donc travailler sur l'inclusion numérique, créer des ponts entre les utilisateurs du numérique, car tout le monde ne sait pas utiliser ces outils. Nous sommes des privilégiés.
We are all very privileged people. Génie informatique et hackeuse, Audrey Tang a une autre particularité, et pas des moindres, celle d'être le premier transgenre au monde à occuper un poste de ministre. Clément Robin, Taipei, RFI.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Voilà, j'ai trouvé que c'était quand même, comment dire, une belle image.
Absolument.
Parce qu'on parlait justement avant, on avait l'impression, et encore beaucoup maintenant, les gens transgenres, c'est aussi lié à prostitution, travail du sexe, etc. Comme si c'était une malédiction, on est transgenre, on peut... Mais en fait, non, des transgenres, il y en a qui font des choses extraordinaires, et c'est pas uniquement dans un monde glauque ou... univers carcéral ou prostitution, oui. Même si ça existe, bien oui. Sûr, on ne va pas le nier.
En tant que militante, je mets en exergue effectivement les côtés un peu négatifs, puisque autrement, je n'aurais pas de combat à mener.
Et mais ça veut dire aussi que ça évolue quand même, même dans l'esprit des gens, tu penses, Florence, oui. Que quand même l'image oui. Évolue.
Oui, oui, oui. Alors, pour revenir à cette personne, c'est l'image d'une réussite, ne serait-ce professionnelle, mais magnifique. Et puis, effectivement, là, on est dans des pays où la transidentité ne pose, en règle générale, absolument aucun problème. Bon, en France, ce qu'il faut comprendre, c'est que la transidentité, elle ne sévit pas dans une classe sociale, elle est de partout. Donc, il y a dans toutes les classes sociales, vous avez des personnes transidentitaires. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir aussi dans des réussites différentes. Moi, j'ai des médecins qui sont transidentitaires, j'ai un avocat, j'ai un chef d'entreprise qui a 75 salariés, qui est devenue femme, d'ailleurs, avec son entreprise, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais j'ai aussi des filles qui, dans leur parcours de transition, la transition est quand on décide de faire une transition, c'est un choix qui est très, très, très dur, parce qu'on sait qu'en fait, on va en baver pendant 2 ans ou 3 ans. Vous avez des garçons qui ont un passing, ce qu'on appelle le passing qui n'est pas là, qui est absent. Donc, sur leur transition, ils vont avoir une discrimination importante. Donc, certaines ou certains, d'ailleurs, parce qu'en fait, la TDS, c'est malheureusement dans les deux sexes, envisagent ou voient le travail du sexe comme la seule voie de recours pour gagner un petit peu d'argent. Alors, bien évidemment, je suis absolument contre, parce qu'on a en France des tas de voies différentes, en fait, pour gagner de l'argent. Bon, on parle du travail, bien évidemment, ça c'est une chose, mais on a des possibilités d'être prises en charge au niveau de la transidentité, de toucher la hache. On a d'autres possibilités, quand on n'est pas obligé d'aller à cet extrême. Voilà. D'autant plus que aujourd'hui, c'est plus un commerce qui n'était comme avant.
Alors, c'est vrai que, enfin moi, pour avoir connu plus jeune des personnes transgenres, transidentitaires qui se prostituaient, souvent me disaient c'est pour leur traitement. Ouais. Alors comment ça se passe maintenant, le traitement, c'est remboursé? Comment ça se passe?
Alors là, moi je dis non, pas du tout, parce qu'il n'y a aucune raison. Ce traitement, il est effectivement pris en charge, justement par rapport à l'ALD que je parlais tout à l'heure. Mmh. C'est pris en charge. Tout le long du parcours du processus. Les opérations en reconstruction, par exemple, reconstruction faciale, maxillofaciale, c'est pris en charge. Certaines opérations mammoplastie, c'est pris en charge, comme les mammosectomies, c'est pris en charge. La vaginose, c'est pris en charge, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, bien évidemment, pour que tout ça soit pris en charge, il faut rentrer aussi, malheureusement, dans un petit moule. C'est-à-dire avoir accepté soit de rentrer dans un protocole, soit de suivre... en indépendant, mais toujours est-il, c'est d'avoir rencontré des psychiatres qui, eux, vont donner l'autorisation pour prendre des hormones, qui, en fait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, le traitement est pris en charge, et je dirais que, heureusement que le traitement est pris en charge, parce qu'en fait, c'est un traitement qui est extrêmement onéreux, mais il ne serait pas pris en charge que la transidentité coûterait 3 fois plus cher à l'État. Parce que ça permet de corriger les dépressions des gens qui sont dépressifs. Ça évite les mutilations, ça évite les scarifications, ça évite aussi les personnes qui n'ont pas de... Juste avant, en fait, le parcours, on est très, très vite se mettre en danger. Et j'en veux pour preuve, puisqu'en fait, c'est la personne qui m'a donné son nom, qui s'appelait Florence, qui... À un moment donné, a pris la voiture et a foncé sur un boulevard. Elle est rentrée dans un camion. Mais ça aurait pu être un car scolaire. Voilà. Donc je pense que si on ne peut pas marginaliser cette partie de la population, parce qu'en la marginalisant, ça devient dangereux pour tout le monde. Voilà.
Alors, on évoquait tout à l'heure, on a évoqué rapidement, avant d'avoir Olivier au téléphone, une loi donc, qui s'inscrit en fait dans une réforme d'une loi qui s'appelle Justice du XXIe siècle. Et ça concerne, parmi toutes les modifications que cette réforme apporte, il y a celle du changement d'état civil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que apparemment, la loi en tout cas a été votée et passée. 12 octobre, mais pas dans sa globalité. Hein,
Absolument. Alors,
en fait, il manque des décrets d'application.
Voilà. L'ensemble des associations, en fait, l'ensemble, bref, les associations trans ont demandé à ce qu'effectivement, on ait notre changement d'état civil. Alors, dans l'idéal, il aurait fallu que ce soit un changement libre et gratuit, ça s'est obtenu, mais directement déclaratif à l'officier d'état civil. C'est-à-dire, on allait voir l'officier d'état civil dans la mairie où on réside ou dans la mairie de naissance, et puis on dit, ben voilà, je m'appelle Patrick, je suis un garçon, et je veux m'appeler Patricia et être reconnu comme une femme. Ce qui existe d'ailleurs dans certains pays en Europe, hein, parce qu'en fait, là, la France a traîné la patte pour s'occuper de ce genre de dossier. La seule chose qui nous a empêché d'avoir ça, ce déclaratif, c'est une loi napoléonienne, oula, c'est dur à dire, de Napoléon, on va dire, faire comme ça, qui fait que, en fait, nous n'avons pas la propriété d'État. Ça veut dire que, en fait, m'appartiens pas, j'appartiens à l'État. Et de ce fait, je n'ai pas le droit de me mutiler, je n'ai pas le droit de... Voilà. Napoléon avait fait ça parce qu'en fait, c'est un moment où il était en guerre, et il avait besoin de chair à canon, et beaucoup de gens voulaient déserter, et il avait mis cette loi en place. Il faut qu'on l'abroge, cette loi. D'ailleurs, Jean-Jacques Toubon, je crois, ou je ne sais plus comment ça, il s'appelle sous prénom, le défenseur des droits.
Jacques Toubon,
défenseur des droits, l'a bien précisé, l'a redit que c'est une loi qu'il faut enlever le plus vite possible, puisque en dépendant de nous, effectivement, pour nous c'est un obstacle, mais ça gêne aussi pour beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors la loi, aujourd'hui, elle est passée, elle se décompose en fait un petit peu en deux choses. C'est qu'on ne peut demander le changement du prénom ou des prénoms. Hein. Les personnes qui ont trois prénoms, on peut changer les trois prénoms. Ça, c'est une chose. Cette loi, elle est passée et elle est, je dirais, officiellement en fait en application. Elle pourrait être aujourd'hui appliquée. C'est une loi qui n'avait pas de décret d'application. Donc, elle est passée très, très facilement. Elle est passée le 28 novembre. Aujourd'hui, bien évidemment, si moi, demain, je vais voir à Colombier le jeune, la mairie où il y a 400 habitants, l'officier de l'état civil va me dire « je prends votre demande en compte, mais j'y comprends rien, je ne sais pas du tout ce qui se passe, et voilà. » Donc il va falloir qu'il le réfère à son patron. Et je pense que pour l'instant, c'est un petit peu comme ça. Même si le jardin d'été met en place des circulaires, des formulaires pour justement faciliter les personnes, ce sera des documents qui seront à télécharger, pour faire des papiers au niveau de la mairie du changement de prénom. En ce qui concerne la loi sur le changement d'état civil, le changement d'état civil, c'est aussi la notion en fait, qu'on retrouve sur les papiers de M ou de F ou de 1 ou de 2.
Carte d'identité, carte de sécurité sociale.
Alors là, il faut tout changer. Il faut changer le permis de conduire, carte de sécurité sociale, la carte d'identité. En fait, tous les papiers officiels, il faut les changer. Mais le problème, il est pas là.
Le numéro de sécurité sociale qui est repris sur la carte vitale maintenant.
Voilà. Cette loi est beaucoup plus complexe en fait dans son domaine d'application, et on a travaillé en fait jusqu'à présent, à Paris on a travaillé plusieurs fois pour justement écrire ces décrets d'application. Là, a priori, théoriquement, on devrait être en place et pouvoir avoir une loi dans la première quinzaine de janvier. Voilà. Donc, et après...
Avant les élections, alors.
Avant les élections. Et ça, c'est pour nous, c'est une échéance qui est très, très importante. Il faut que ça passe avant les élections parce que... Alors, on n'est pas à RMC, mais je vais me donner mon petit coup de gueule. On a en ce moment une radicalisation très, très importante. Je ne parle pas politique, hein, mais sociale sur... justement, vous parliez tout à l'heure de la manif pour tous, tout ça, où on a lâché les fauves dans la cour. Et c'est extrêmement dangereux. Et a priori, on va les lâcher encore aux prochaines élections. Donc, danger. Voilà. Alors, si on veut non plus pas être à la traîne de toute l'Europe, hein, parce que c'est un petit peu le cas pour l'instant, il faut que cette loi passe. Cette loi, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, il manque des tas de choses, il manque, on est obligé de passer, du coup, parce que ce n'est pas déclaratif, donc on est obligé de passer devant le procureur. Et, pardon, on efface, je recommence. En fait, c'est une demande qu'il va falloir établir et l'emmener au greffe du tribunal. Et le juge des affaires familiales va consulter ce dossier tranquillement dans son bureau, un verre de bourbon à la main. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la procédure simplifiée. Si ce juge juge, justement, il juge qu'il y a un problème, que ce changement d'état civil, du garçon aux filles et tout ça, ça ne lui plaît pas, il peut en saisir le procureur. Et le procureur réexamine le dossier et ça peut encore traîner et après ça se termine en fait dans le bureau du JAF, du juge des applications familiales. En règle générale, et a priori, je suis quasiment sûr que la loi telle qu'elle passe avec les décrets d'application sur lesquels nous avons travaillé et qui sont pour l'instant un peu bloqués, si tout passe comme il faut, 90 à 95% de la population transidentitaire devrait pouvoir obtenir l'année prochaine son changement d'état civil, qui est extrêmement important, surtout prénom entre autres, pour les enfants qui vont en faculté. Changement de prénom, donc voilà. Les enfants qui sont même avant la faculté, il est très important de pouvoir appeler Stéphanie. Je vais faire une grosse erreur de dialectique. Bon, très important d'appeler Stéphanie, ce garçon qui est très très féminin et qui veut être encore plus féminin. Donc il ne faut plus qu'on mégenre les choses, il faut que les gens qui veulent s'appeler Stéphanie, ben, faut les appeler Stéphanie tout simplement, mais il n'y a aucune raison pourquoi de ne pas le faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça permettra de lutter contre la transphobie, ça permettra de lutter contre les outing. Moi je connais beaucoup de personnes qui sont en faculté à l'heure actuelle sur Lyon, entre autres, qui portent leur nom usuel de réassignation. Et ça, c'est important pour leur sécurité.
Alors, si cette loi passe en l'état, ce qu'on espère, enfin que les décrets soient votés, est-ce que ça veut dire qu'il y a une suppression du parcours médical ? Je parle par exemple aussi de la stérilisation obligatoire.
Alors,
est-ce que c'est
oui
aboli ?
Non.
Non.
Oui. Ouais. Avant, pour avoir droit au changement d'état civil et changement de prénom et tout ça, il fallait effectivement faire un parcours de transition. Et il fallait avoir une opération à caractère définitif. Pour les garçons, une mammectomie, alors je traduis peut-être, c'est en fait pour les filles qui deviennent garçons, une mammectomie, c'est-à-dire l'ablation des seins, était considérée comme une opération à caractère définitif. Et donc les garçons pouvaient obtenir devant le TGI, donc le tribunal de grande instance, le changement d'état civil assez, entre guillemets, plus rapidement que pour les garçons qui deviennent une fille, qui, à ce moment-là, l'opération à caractère définitif, en fait, c'était la vagine. Donc, ce n'était pas les mêmes délais, quoi. Voilà. Ouais. Demain, plutôt, avec cette nouvelle loi, on n'est pas obligé de faire un traitement, on n'est pas obligé de subir des opérations. Je veux m'appeler Patricia ou je veux m'appeler Patrick, je demande. Voilà. Sur un dossier, je fais valoir mes droits, puisqu'en fait, c'est une question de droit, maintenant. Et je dis, voilà, moi je m'appelle Patricia, enfin je vais prendre mon cas, je m'appelle Florence, hein, plutôt, ce sera plus simple pour moi. Je m'appelle Florence et j'ai autour de moi plein de gens qui m'appellent Florence et qui me reconnaissent comme Florence. J'ai des factures au nom de Florence, j'ai des papiers au nom de Florence. Donc voilà, monsieur le juge, je veux officialiser ça. Voilà. Et le juge ne peut pas me demander de fournir des preuves, soit de mon opération, parce que je n'y en aura pas, enfin s'il y en a une, mais il est pas censé le savoir, et on n'est pas obligé de le produire, ça, sans obligé de produire la preuve de traitement hormonal. Voilà. Et donc ça, c'est, par contre, c'est une assez grande avancée. Ça, c'est sympa.
Il faudra quand même que la personne produise, entre guillemets, des témoins prouvant que... enfin, des témoins ou des documents prouvant que... depuis un certain temps, cette personne vit...
Alors, dans l'idéal, effectivement, c'est d'accompagner sa demande par 2-3 certificats de personnes qui connaissent cette personne en disant « je sous-signe, connais telle personne sur son caractère féminin ou masculin ». Et ça devrait effectivement suffire, puisque ce n'est plus des conditions exclusives.
Le parcours médical est totalement...
Il n'est plus obligatoire, ainsi que le suivi psychiatrique. On a complètement démédicalisé et dépsychiatrisé la situation.
Et ça, c'était une des grandes revendications.
C'était les plus grandes revendications après le déclaratif.
Ouais.
Tout à fait. Mmh. Voilà. Donc,
par
contre, attention, là, on parle du changement d'état civil. Par contre, en ce qui concerne le faire un parcours, il faut toujours passer devant un psychiatre ou un psychologue obtenir les hormones. Je parle en France, ça se passe comme ça. Et éviter surtout d'acheter ça sur Internet. C'est extrêmement
dangereux. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que sur Internet, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Oui. De toutes sortes de médicaments et de... Voilà.
Mais en fait,
et ça
si,
en fait partie aussi.
Si, on doit voir, nous, un endocrinologue, c'est pas pour rien.
Ah oui.
Il nous fait faire des prises de sang pour savoir où on en est, où on se situe.
Sûr.
Et il fait un dosage précis sur le traitement personnalisé qu'on va suivre. Voilà.
Donc, dans les années à venir, quelles vont être les grandes luttes? Alors, il y en aura toujours. Déjà, lutter contre les préjugés, contre la transphobie.
Ah oui,
mais ça, c'est pas seulement du domaine de la loi. Ça en fait partie aussi, mais c'est aussi faire évoluer les mentalités.
Oui.
Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile.
Alors, oui et non. Moi, j'habite, en fait, depuis peu, un petit village. Je cache absolument pas mon identité, d'autant plus que je suis militante, donc ça m'arrange. Je suis très, très bien passé. J'ai absolument pas été agressé ou tout ça. Il y a, dans beaucoup, beaucoup d'endroits, quand on présente les choses gentiment, poliment, sans être agressif, ça se passe très bien. Les gens, je trouve que les gens sont effectivement de plus en plus ouverts, quoi. J'ai fait, sur une intervention en milieu scolaire, chez une jeune fille de... Elle devait avoir 15 ans, 14, 15 ans, qui m'a dit, mais de toute façon, maintenant, on s'en fout, vous vous habillez comme vous voulez, ça ne regarde pas, en fin de compte, vous avez le droit. Ah, et donc, je pense que les jeunes, j'attends moi énormément des jeunes, et c'est pour ça que j'essaie de faire beaucoup de choses pour les jeunes, pour qu'ils aient justement leur changement de prénom le plus rapidement possible, changement d'état civil le plus vite possible. Ça va faire partie des revendications à venir. C'est là, aujourd'hui, les personnes qui ont la possibilité de faire ce changement d'état civil, c'est les personnes donc majeures et les mineurs émancipés ou sous tutelle. Voilà. Les autres n'ont pas encore accès à ça. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'un enfant qui a 5, 6, 7, 8, 9, enfin, je ne sais pas. Après, il faut voir le parcours, il faut voir comment ça peut se passer, mais qu'il puisse choisir son prénom le plus vite possible.
D'accord. Alors, par contre, il y a quelque chose, on avait évoqué un petit peu, lorsqu'on, tu étais venu la première fois nous présenter les actions du jardin d'été, c'est aussi l'accompagnement de la famille par rapport donc à la transidentité.
Ouais.
Les parents, les proches, est-ce que vous continuez toujours aussi?
Bien sûr, ouais. Bien sûr. On a une permanence qui se situe au centre LGBTQI de Lyon, 19 rue des Capucines, tous les derniers samedis de chaque mois, où je reçois en fait les parents, les frères, sœurs, amis ou collègues. Enfin, j'ai pas eu de collègues, mais bon. Mais oui, bien sûr. Et puis parallèlement, en fait, nous faisons des interventions. Prochainement, je suis invité dans une famille où en fait les parents, tantes, cousins aimeraient bien accompagner la personne, mais ils savent pas du tout comment faire. Donc je suis invité à passer une petite soirée chez eux. Je suis aussi invité des fois dans les entreprises pour accompagner les personnes qui sont en place, pour expliquer aux collègues comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, que en fait c'est de la personne qui est transidentitaire, elle ne va pas se transformer en monstre du jour au lendemain, et que voilà. Et effectivement, je pense qu'il faut, je me bats beaucoup sur la visibilité, il faut qu'on soit visible le plus possible, en ayant des tenues tout à fait respectables et raisonnables, sans s'habiller comme un camion de pompier, et puis... se mettre à gyrophare sur les fesses, quoi. Parce que c'est souvent, malheureusement, c'est souvent ça. On a tellement, tellement envie de prouver notre acquisition de féminité qu'on exagère. C'est pour beaucoup. C'est dommage.
Très bien. Alors, le jardin d'été, comme tu le précisais, a des permanences. C'est au centre LGBTI.
Alors, nous avons donc la permanence là pour les parents, famille, le dernier samedi de chaque mois. Nous avons un groupe de parole qui se passe dans un établissement LGBT au Feuillant, si je peux le citer.
Oui.
Ça, c'est le groupe de parole. C'est toujours tous les premiers samedis de chaque mois où les gens viennent s'exprimer. Dans ces groupes de parole, il y a bien évidemment des personnes trans, mais il y a des personnes travesties, il y a des personnes qui sont inter, il y a des personnes qui sont gender fluid, quoi, on va dire.
Mm-hmm.
Et il y a des parents, j'ai une psychologue qui vient d'intégrer notre équipe d'ailleurs, qui est pas trans, qui est psychologue tout simplement, et qui s'intéresse énormément à cette problématique et qui veut vraiment nous aider. Donc c'est très 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 ouvert. Et on va essayer d'organiser des un peu sur le côté festif. Voilà, donc du coup, si je peux le dire, on fait notre réveillon jour de l'an au local LGBTI avec un buffet et tout ça.
Au centre
LGBTI de Lyon, donc le 31. Et c'est l'entrée est à 25 euros, enfin la participation. C'est jusqu'au bout de la nuit et c'est ouvert à tout le monde.
D'accord. Bon, le rendez-vous est pris. Puis voilà. De toute façon, je remettrai tous les renseignements sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, le site de l'émission. Vous avez un Facebook aussi, au Jardin d'été.
Ouais. Oui, on a plusieurs groupes. Enfin, on a une page du Jardin d'été et on a plusieurs groupes. On a le Jardin d'été Val-de-Loire, puisqu'on a une délégation qui est là-bas. On a La Rochelle. On a Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà. Donc, on a pour les parents, on a un groupe spécialement pour les parents et spécialement aussi pour les juniors.
D'accord.
Pour les jeunes de, je crois que ça va jusqu'à 25 ans et pas plus.
Mais en tout cas, merci Florence d'être revenue nous voir.
0800 608.
Elle fait ça très bien. Merci au pote aussi d'avoir accompagné le pote muet qui est resté dans le studio à observer si tu disais pas de bêtises.
Voilà, c'est ça.
Donc, de toute façon, Florence, tu es la bienvenue quand tu veux dans l'émission.
Merci beaucoup.
Il suffit de me dire j'ai quelque chose à dire, il n'y a pas de problème.
Ça, ça va être dur parce que j'ai toujours quelque chose.
Et puis, bon, on va terminer l'émission. L'heure a tourné. Nous devons nous séparer jusqu'à la semaine prochaine. Merci, Bernard, d'avoir affronté le froid hivernal pour venir jusqu'ici faire la régie aussi brillamment comme d'habitude. Alors, on va écouter une chanteuse s'appelle Jane, qui est une chanteuse toulousaine, bien qu'elle chante en anglais, en tout cas sur cette chanson. Une chanson sur Myriam Makeba, fameuse jazz woman sud-africaine.
Pluriel gay. La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Ooh, we work it by, make it by, make it by.